Alors, l'aînée du livre, il y a toute une histoire derrière. Hein. Je dirais qu'il y a un certain nombre de pièces. On peut présenter ça un peu comme un puzzle. L'idée du livre, elle est née d'abord parce que j'ai eu l'opportunité d'aller travailler à Tahiti, ce qui n'est pas toujours courant. Ensuite, parce que je faisais déjà pas mal de navigation depuis plusieurs dizaines d'années. Que ma femme a eu envie de passer d'un 12 mètres qu'on avait à La Rochelle à 50 pieds. Et ben, ce 50 pieds, il est arrivé tout neuf à Tahiti. On a commencé à naviguer dans les îles. Alors, à partir de là, il y a plusieurs choses qui sont mises en place. D'abord, il se trouve que, bien avant d'aller à Tahiti, l'une de nos filles m'avait offert une aquarelle, une reproduction d'une aquarelle de Paul Gauguin. On voit deux Polynésiens, apparemment très stylisés, nus, qui regardent la mer monter sur une île qui est perdue. Puis en dessous, il y a un petit texte qui est une légende polynésienne qui dit en gros quelque chose comme Ruaatu lui dit d'aller sur le Toamarama, qui pour certains est une pirogue, une montagne, une arche. Remarquons seulement que Toamarama signifie guerrier de la lune, ce qui me fait penser que l'événement a quelque rapport avec le cataclysme. Quand le pêcheur et sa famille se furent rendus à l'endroit indiqué, les eaux de la mer commencèrent à monter et, couvrant jusqu'aux plus hautes montagnes, firent périr tous les êtres, à l'exception de ceux qui étaient sur ou dans le Toamarama et qui, plus tard, repeuplèrent les îles et la terre. Donc, cette légende qui a été écrite sous la petite aquarelle de Paul Gauguin m'a été offerte par une de nos filles, 5 ans avant que je découvre que je voulais aller à Tahiti. Alors cette légende est restée dans mon bureau à l'Université de La Rochelle, tout le monde pouvait la voir. Et évidemment, quand on est parti à Tahiti, on s'est dit, mais le bateau, il va s'appeler le Toamarama. Qui est un peu la symbolique de l'arche hein, dans les légendes polynésiennes.
Oui, c'est étonnant cette correspondance.
Y en a d'autres comme ça. C'est vrai aussi que nous avons un bateau qui est un dériveur intégral. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est quand le dossier, avec le constructeur, qu'on a fait construire ce bateau, je dirais un an avant que je m'aperçoive que j'allais être muté à Tahiti, il y avait des reportages dans Voile Voilier et on pouvait lire le bateau idéal pour les lagons polynésiens. Il y a tout un tas de coïncidences comme ça. Mais c'est vrai qu'il y a aussi quelque chose de fabuleux. Moi, j'aime beaucoup la mer, la navigation. Je navigue depuis, je ne sais plus, 40 ans, quelque chose comme ça. Je sais ce que c'est que naviguer au large, je sais ce que c'est qu'attendre pendant plusieurs jours de voir le pays monter à l'horizon. Et j'ai découvert ce qu'étaient les lagons polynésiens et surtout le passage extraordinaire entre le Pacifique et le lagon. Voilà. Quand on prend une passe entre le corail, et je me souviens que ça a été un des déclencheurs du livre parce que maintenant, la navigation, c'est à la fois, pour moi, à la voile, mais dans une navette spatiale. Il y a beaucoup d'informatique, d'électronique à bord de mon bateau. Et évidemment, je me suis dit, mais les anciens polynésiens, comment ils ont fait, quoi? Parce qu'ils sont venus, ils naviguaient, on le sait, en gros, vers le soleil levant, souvent auprès, d'ailleurs. C'était plus simple pour revenir. Pour revenir, il était important. Mais enfin, ils ne connaissaient pas les îles. Il y a bien eu des premiers, quoi. Voilà. Il y a bien eu des premiers. Alors, ils n'avaient pas de carte. Et il faut quand même se dire qu'ils pouvaient arriver sur une île où il n'y avait pas de passe. Il y a des îles, il y a des atolls, il n'y a pas de passe. Donc ils pouvaient voir une île et merde, et on peut pas rentrer, on peut pas. Donc c'est épouvantable quand même. Donc c'est des contextes très différents de ce que l'on connaît. Donc ça a été un déclencheur, comment ils ont fait?
Est-ce que le livre arrive en France là? Est-ce que vous pouvez peut-être nous donner le résumé? Comment est-ce que vous voyez l'histoire pour ceux qui ne l'auraient pas encore lu?
Alors, le livre a une architecture tout à fait particulière qui fait dire à certains que c'est un prototype. Il mêle à la fois une période très ancienne, c'est-à-dire que je mets en situation les Polynésiens il y a 2000 ans. C'est-à-dire que ce n'est pas un livre d'histoire, ce n'est pas un livre d'anthropologie, ce n'est pas un livre d'ethnologie, parce que c'est une fiction, parce qu'à bord de ces grandes pirogues où ils vont se retrouver à la suite d'un cataclysme, il y a de l'amour, de la haine, un assassinat. Mais c'est quand même aussi une histoire ancienne. Donc ça veut dire que cette partie-là, elle a une certaine crédibilité, parce qu'elle a été écrite par moi, mais je l'ai fait lire à un anthropologue, un archéologue, pour dire on va ajuster un peu quand même tout ça, de façon à ce que ça reste crédible dans le contexte polynésien. Il y a une partie du présent. C'est en fait Alpha, ma femme, et moi, sur un bateau, à la découverte des îles de la Polynésie, d'Atoll même perdu. Et puis très vite, ça dérive, c'est plus nous, parce qu'on sombre un peu dans une douce schizophrénie. Et puis c'est les humains, enfin, les humains ne sont pas en majorité. Il y a beaucoup plus d'intelligence artificielle que d'intelligence humaine, donc des IA et des IH. On est en l'an 5125. Pourquoi ? Parce qu'il fallait laisser le temps à des gigantesques vaisseaux partis en l'an 3000 pour essaimer suffisamment dans la galaxie, car ce sont des machines de von Neumann qui se repliquent identiquement à elles-mêmes. Enfin, quand on dit vaisseaux, ils sont quasi planétaires, hein. Les cylindres de 500 km de long. À l'époque du livre, il y en a 26 000 à peu près. Il y a 150 milliards d'humains, mais 10 000 milliards d'intelligence artificielle. Et tous les IH portent autour du poignet un biocom, qui est une petite machine biologique et numérique, expert en toute communication. Il y a 150 milliards de biocom. Donc les humains ne sont pas majoritaires. Ils ont quitté la Terre depuis 2000 ans. L'homme de la rue, entre guillemets, considère que la Terre est un mythe, une légende. Sauf que ces vaisseaux qui communiquent d'une manière très spéciale en transportant de la conscience entre les vaisseaux, parce que seule la conscience passe entre les vaisseaux, instantanément, sauf que tous ces humains sont implicitement dans une recherche de quelque chose. Et on commence à voir le parallèle. Les Polynésiens étaient bien à la recherche de quelque chose quand ils naviguaient dans le Pacifique. Donc il y a un parallèle qui se fait entre le passé et le futur, articulé sur le présent. Et les personnages principaux des livres, c'est-à-dire Taroa, qui est le chef emblématique de la grande pirogue qui est à la conquête du Pacifique, Alpha, qui est l'épouse du compagnon naviguant sur le Pacifique, et Angkor, qui s'appelle comme la ville, mais ça on ne le saura que plus tard pourquoi, qui est agent communicateur et qui transporte les informations entre les vaisseaux, ces personnages principaux vont se rencontrer d'une manière très particulière, ils interagissent. Et de cette interaction va naître quelque chose d'extraordinaire dont je ne peux pas parler, parce que c'est le scoop, mais ça va révolutionner l'avenir de l'humanité. Et ça pourrait révolutionner le nôtre.
Comment vous passez de la Polynésie que vous découvrez à cette histoire? Comment est-ce qu'elle se forme petit à petit, que vous dites j'ai envie de l'écrire?
Certainement parce que j'ai toujours pensé qu'il y avait des correspondances entre un voilier moderne et une navette spatiale, un vaisseau sidéral, parce que j'ai souvent fait cette analogie. La mer est quelque chose, la mer, on la voit aussi souvent sous les étoiles. Dans un paysage marin très dépouillé, le large, autour du bateau, rien d'autre. Ça rappelle un peu l'espace quand même, d'autant plus que, faut pas se leurrer, je connais bien le large. Il est très beau, il est très dangereux. Le milieu est agressif. On ne plaisante pas avec lui. Il peut y avoir c'est très bien, tout va très bien jusqu'au jour où il y a une grosse bêtise qui arrive et là on est dans une situation un peu comme dans un vaisseau spatial. On est loin de tout, le temps prend une autre dimension, on sait toujours quand on part avec un voilier à voile, on sait jamais quand on arrive. Les atterrissages sont toujours très difficiles, parfois, souvent, dangereux, comme un avion, sauf qu'on a un peu de temps. Il y a des similitudes. On est à la fois dans un endroit confiné et en même temps on est dans l'espace. Donc, j'ai toujours fait ces parallèles. Donc j'avais envie de passer du passé des anciens Polynésiens, puisque j'y étais, au futur, en raison d'une analogie dont je venais de parler, c'est-à-dire la conquête un peu de l'espace.
Parlons un peu du futur, justement. Comment est-ce que vous avez travaillé? Peut-être plus sur vos bases scientifiques, des lectures de science-fiction aussi un petit peu?
Oui, bien sûr. Je suis un lecteur de science-fiction. J'ai lu pas mal de choses, comme Fondation, par exemple, parce que je pense souvent à des sagas de ce type-là, ou Mars, par exemple, ou d'autres. Hein, bon. Mais j'ai eu la chance. Moi, je suis au départ physicien, théoricien, qui a basculé vers l'électronique, puis vers l'informatique. Et j'ai eu la chance de créer, au début des années 80, au milieu des années 80, le premier laboratoire de recherche reconnu par le ministère à La Rochelle, dans le cadre de la création de l'Université de La Rochelle. Et la thématique de ce laboratoire était la thématique de ma thèse d'État, c'est-à-dire des problèmes d'interprétation d'images liés à des raisonnements sur des images réelles, avec une connotation en intelligence artificielle, c'est-à-dire dans des domaines où on tente de simuler le comportement humain pour reconnaître, par exemple, rapidement des objets, trier les objets en milieu industriel de manière très rapide, en se posant des questions, et comment fait-on ? Toutes ces questions liées à la connaissance, le traitement, quand je dis la connaissance, je veux dire le codage de la connaissance dans les machines, qui n'est pas résolu, à ma connaissance, justement. Et puis, toutes ces questions qui tournent autour de comment fait-on. Alors, on ne sait pas comment on fait pour reconnaître des objets, on ne sait pas comment on fait. C'est pas pour ça qu'il n'existe pas des programmes qui sont capables, mais ça, on rentre dans un domaine très technique. Hein. Ça concerne pas ça ne concerne pas l'informatique traditionnelle. Tout ce qui concerne l'intelligence artificielle concerne des domaines extrêmement réduits au niveau de l'informatique, qui sont encore très investis par la recherche. Ça a évidemment eu une application sur mes livres. Quand je parle d'intelligence artificielle, je pense à des machines qui peuvent avoir un peu. Alors on dit robot, mais j'aime pas bien le terme parce qu'il est très galvaudé, puis on dit n'importe quoi dans les médias à ce niveau-là. Non, mais je me place en l'an. En l'an 5000, donc j'imagine un contexte très différent. Je peux surfer, j'aime bien faire ça, surfer, passer de ce qui pourrait être réel à notre époque à quelque chose qui est complètement imaginaire. Et la frontière, on ne la voit pas très bien, j'aime bien faire ce genre de choses. Donc y compris aussi en science.
Combien de temps vous avez mis pour faire ce livre ?
J'ose pas répondre à cette question parce que ça peut paraître un peu prétentieux, mais ça s'est fait très très vite, un peu comme un fil que l'on tire et tout vient. Je l'ai écrit en un an. En un an, oui. Ben oui, j'ai écrit en un an, voilà. Hein? Ben oui. Mais il y a le 2 et le 3 maintenant qui vont sortir cette année. Oui, ça m'apparaissait un peu comme une vision. Je les vois, ces personnages. Je leur vois la situation. Ils sont avec moi. J'ai envie de dire que c'est un plaisir de les retrouver.
Qu'est-ce qu'on peut dire de la suite, puisque le tome 2 arrive en France en juin, si je ne dis pas de bêtises, puis après le tome 3, en termes d'histoire, pour ceux qui l'auraient déjà lu ?
Oui, alors on peut répondre très facilement à cette question. J'ai essayé à la fois de me cadrer sur l'histoire de la Polynésie, parce qu'il y a toujours cette partie-là qui est bon. Donc, je respecte ce que l'on sait des grandes migrations polynésiennes et de ce qu'on appelle le triangle polynésien. Donc, les Polynésiens sont partis d'Asie du Sud-Est il y a 20 000, 30 000 ans, hein, sur des machines qui étaient des catamarans. Ils sont arrivés à peu près au début de notre ère sur ce qui est actuellement les îles de la Société, la Polynésie française. Ensuite, ils ont éclaté, très curieusement, en allant vers le nord, vers Hawaï, continuant vers l'est, vers l'île de Pâques, Rapa Nui, et en retournant vers l'ouest, vers la Nouvelle-Zélande. Ces points forment un extraordinaire triangle qu'on appelle le triangle polynésien. Dans ce triangle polynésien, la culture est la même partout. Tous les peuples de l'Océanie parlent fondamentalement la même langue. Pas tout à fait, il y a des dialectes différents, mais fondamentalement, c'est la même langue d'origine austronésienne. Alors, évidemment, puisque dans le premier Tauroa, avec son Toa Marama, sa belle machine, son beau catamaran, va arriver sur l'île sacrée de la Polynésie, qui maintenant s'appelle Raiatea, qui est pas loin de Tahiti, évidemment, ça explose. Donc on va se retrouver avec les parents, la descendance de Tauroa, qui est l'ancêtre des dieux polynésiens, et on va se retrouver d'un seul coup avec trois contextes polynésiens. Ceux qui sont plutôt toujours les ancêtres de Tauroa, ceux qui sont vers les Marquises, hein, et puis ceux qui sont vers les petites îles du Gambier. Donc j'ai restreint un peu parce qu'il y a aussi les d'autres idées dans les livres. Donc les 2 et le 3 mettent en scène trois groupes, trois tribus polynésiennes qui sont, eux, non pas un peu moins investis par la quête de l'île, qui est toujours là quand même parce qu'ils parcourent l'océan, mais ils sont impliqués par les formes. Tout ça, pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de notions de forme et de signes en Polynésie, dans les légendes, à cause des tatouages, par exemple, ou à cause des signes mystérieux de l'île de Pâques. Donc je surfe à la fois toujours sur cette réalité historique, mais en même temps, je passe assez facilement à l'imaginaire. Et puis le 3 va basculer en raison de l'écriture, enfin de l'écriture, on n'en sait rien, des signes mystérieux de l'île de Pâques qu'on appelle des rongo-rongo. Donc il y a l'ensemble... on pourrait dire des trois tribus polynésiennes, des personnages du passé qui vont à la voile vers l'île de Pâques et des gens du futur qui s'intéressent aux signes et aux formes. Tout ça va converger vers l'île de Pâques, qui est d'une grande richesse pour ce qui est de l'imaginaire. Donc il y a des choses intéressantes à faire pour quelqu'un qui écrit comme moi, dans la mesure où il demeure des mystères. Les statues, certes, mais peut-être encore le plus grand des mystères, les rongo-rongo, les tablettes parlantes, dont on ne sait pas si c'est une écriture. Beaucoup de gens disent que c'est une écriture, mais quand on ferme le tome 3, on s'aperçoit que ce n'est pas une écriture. C'est autre chose. Mais ça, il faut lire les livres.
Et alors les projets ensuite, quels sont-ils? Est-ce qu'il y en a?
Oui, il y en a. Il y en a parce que j'ai une petite théorie. J'ai une manière d'écrire particulière qui est liée à ma spécialité d'informaticien. Donc j'ai une manière tout à fait particulière d'écrire la structure même de ces romans. Donc je m'arrange toujours pour que la fin soit une fin en soi, mais qu'en même temps elle appelle autre chose, de toujours. Mais c'est pas la seule chose qui dans la structuration du livre. Donc le 3 se termine d'une manière, j'allais dire, épouvantable. D'ailleurs, dans le 2, le personnage central du futur, qui s'appelle Encore, les premiers mots qu'il dit, c'est « ce que j'ai découvert est terrifiant ». Je vous assure, quand vous lirez la fin du tome 3, je suis prêt à parier que vous trouverez que c'est hyper terrifiant ce qui arrive à l'humanité. Et donc, ça appelle une suite.